Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Le jeudi de cette semaine, nous serons le 18 juin, et je vous propose donc de lire quelques textes qui nous remettront en mémoire cette période et le fameux appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Et je vais commencer la semaine, si vous le voulez bien, avec un texte de Vercors, Le silence de la mer. Il s'agit d'un texte donc qui a été écrit au cours de l'été 1940 et qui a été édité le 20 février 1942. C'est le premier ouvrage de ce qui deviendra les éditions de Minuit, qui existent encore aujourd'hui. Voici donc Le silence de la mer. À la mémoire de Saint-Paul Roux, poète assassiné. Il fut précédé par un grand déploiement d'appareils militaires. D'abord de Troufions, tous deux très blonds, l'un dégingandé et maigre, l'autre carré, aux mains de Carrier. Ils regardèrent la maison sans entrer. Plus tard, vint un sous-officier. Le Troufion dégingandé l'accompagnait. Ils me parlèrent dans ce qu'ils supposaient être du français. Je ne comprenais pas un mot. Pourtant, je leur montrai les chambres libres. Ils parurent contents. Le lendemain matin, un torpedo militaire gris et énorme pénétra dans le jardin. Le chauffeur et un jeune soldat mince, blond et souriant, en extirpèrent deux caisses et un gros ballot entouré de toiles grises. Ils montèrent le tout dans la chambre la plus vaste. Torpedo repartit. Et quelques heures plus tard, j'entendis une cavalcade. Trois cavaliers apparurent. L'un d'eux mit pied à terre et s'en fut visiter le vieux bâtiment de pierre. Il revint, et tous, hommes et chevaux, entrèrent dans la grange qui me sert d'atelier. Je vis plus tard qu'ils avaient enfoncé le valet de mon établi entre deux pierres dans un trou du mur, attaché une corde au valet et les chevaux à la corde. Pendant deux jours, il ne se passa plus rien. Je ne vis plus personne. Les cavaliers sortaient de bonne heure avec leurs chevaux, ils les ramenaient le soir, et eux-mêmes couchaient dans la paille dont ils avaient garni la soupente. Puis, le matin du troisième jour, le grand torpedo revint. Le jeune homme souriant chargea une cantine spacieuse sur son épaule et la porta dans la chambre. Il prit ensuite son sac, qu'il déposa dans la chambre voisine. Il descendit et, s'adressant à ma nièce dans un français correct, demanda des draps. Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café comme chaque soir. Le café me fait dormir. J'étais assis au fond de la pièce, relativement dans l'ombre. La porte donne sur le jardin de plein pied. Tout le long de la maison court un trottoir de carreaux rouges, très commode quand il pleut. nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau. Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardai la mienne dans la main. Il faisait nuit, pas très froid. Ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jetée sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur. Elle se tenait elle-même contre le mur sans rien regarder. Moi, je buvais mon café à petits coups. L'officier à la porte dit « S'il vous plaît ». Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. Puis, il entra. La cape glissa sur son avant-bras. Il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis, il me fit face et m'adressa une révérence plus grave. Il dit « Je me nomme Werner von Ebrenach. » J'eus le temps de penser très vite, le nom n'est pas allemand, descendant d'émigrés protestants. Il ajouta « Je suis désolé. » Le dernier mot prononcé en traînant tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m'étais pas levé. Je déposai lentement ma tasse vide sur l'harmonium et croisai mes mains et attendis. L'officier reprit. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. » Il était debout au milieu de la pièce. Il était immense et très mince. En levant les bras, il eut touché les solives. Sa tête était légèrement penchée en avant, comme si le cou n'eût pas été planté sur les épaules, mais à la naissance de la poitrine. Il n'était pas voûté, mais cela faisait comme s'il l'était. Ses hanches et ses épaules étroites étaient impressionnantes. Le visage était beau, viril, et marqué de deux grandes dépressions le long des joues. On ne voyait pas les yeux que cachait l'ombre portée de l'arcade. Ils me parurent clairs. Les cheveux étaient blonds et souples, jetés en arrière, brillant soyeusement sous la lumière du lustre. Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais comme le brouillard du matin, épais et immobile. L'immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissait ce silence, le rendait de plomb. L'officier lui-même, désorienté, restait immobile, jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave, et sans nulle trace d'ironie. Il ébaucha un geste de la main dont la signification m'échappa. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Je voyais entre les lèvres mi-jointes briller une dent en or. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée et dit « J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. » Et il leva brusquement la tête et fixa l'ange sculpté au-dessus de la fenêtre. « Je pourrais maintenant monter à ma chambre, » dit-il. « Mais je ne connais pas le chemin. » Ma nièce ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches, sans un regard pour l'officier, comme si elle eût été seule. L'officier la suivit. Je vis alors qu'il avait une jambe raide. Je les entendis traverser l'antichambre, les pas de l'Allemand résonnèrent dans le couloir, alternativement fort et faible. Une porte s'ouvrit, puis se referma. Ma nièce revint. Elle reprit sa tasse et continua de boire son café. J'allumai une pipe. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je dis « Dieu merci, il a l'air convenable. » Ma nièce haussa les épaules. Elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina la pièce invisible qu'elle avait commencé d'y coudre. Le lendemain matin, l'officier descendit quand nous prenions notre petit déjeuner dans la cuisine. Un autre escalier y mène et je ne sais pas si l'Allemand nous avait entendus ou si ce fut par hasard qu'il prit ce chemin. Il s'arrêta sur le seuil et dit « J'ai passé une très bonne nuit, je voudrais que la vôtre était aussi bonne. » Il regardait la vaste pièce en souriant. Comme nous avions peu de bois et encore moins de charbon, je l'avais repeinte. Nous y avions amené quelques meubles, des cuivres et des assiettes anciennes, afin d'y confiner notre vie pendant l'hiver. Il examinait cela et l'on voyait luire le bord de ses dents très blanches. Je vis que ses yeux n'étaient pas bleus, comme je l'avais cru, mais dorés. Enfin, il traversa la pièce et ouvrit la porte sur le jardin. Il fit deux pas et se retourna pour regarder notre longue maison basse, couverte de treilles aux vieilles tuiles brunes. Son sourire s'ouvrit largement. « Votre vieux mère m'avait dit que je logerais au château, » dit-il, en désignant d'un revers de main la prétentieuse bâtisse que les arbres dénudés laissaient apercevoir un peu plus haut sur le coteau. « Je féliciterai mes hommes qu'ils se sont trompés. Ici, c'est un beaucoup plus beau château. » Puis il referma la porte, nous salua à travers les vitres et partit. Il revint le soir à la même heure que la veille. Nous prenions notre café. Il frappa, mais n'attendit pas que ma nièce lui ouvrit. Il ouvrit lui-même. « Je crains que je vous dérange, » dit-il. « Si vous le préférez, je passerai par la cuisine. Alors vous fermerez cette porte à clé. » Il traversa la pièce et resta un moment la main sur la poignée, regardant les divers coins du fumoir. Enfin, il eut une petite inclinaison du buste. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention furent très claires, ni très pures. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail. Comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut qu'un autre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté. Je ne puis, sans souffrir, offenser un homme. Fût-il mon ennemi.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. la mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons, après ce moment musical, au « Silence de la mer » de Vercors. Pendant longtemps, plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance. Leur commune propriété étant qu'ils ne supposaient pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la petite porte. Il regardait autour de lui. Un léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen. Le même examen chaque jour et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de ma nièce, immanquablement sévère et insensible. Et quand enfin il détournait son regard, j'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante. Puis il disait en s'inclinant « Je vous souhaite une bonne nuit » et il sortait. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine mêlée de pluie terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi, j'imaginais l'officier dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en entrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Ma nièce tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin, des pas se firent entendre, mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus à leur bruit inégal la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. Il était en civil. Le pantalon était d'épaisse flanelle grise, la veste de tweed bleu acier enchevêtrée de mailles d'un brun chaud. Elle était large et ample, et tombait avec un négligé plein d'élégance. Sous la veste, un chandail de grosse laine écrue moulait le torse mince et musclé. « Pardonnez-moi, dit-il, je n'ai pas chaud. J'étais très mouillé et ma chambre est très froide. Je me chaufferai quelques minutes à votre feu. » Il s'accroupit avec difficulté devant l'âtre, tendit les mains. Il les tournait et les retournait. Il disait « Bien, bien !» Il pivota et présenta son dos à la flamme, toujours accroupi et tenant un genou dans ses bras. « Ce n'est rien ici, dit-il. L'hiver en France est une douce saison. Chez moi, c'est bien dur, très. Les arbres sont des sapins, des forêts serrées. La neige est lourde là-dessus. Ici, les arbres sont fins. La neige dessus, c'est une dentelle. Chez moi, on pense à un taureau trapu et puissant qui a besoin de sa force pour vivre. » Ici, c'est l'esprit, la pensée subtile et poétique. Sa voix était assez sourde, très peu timbrée. L'accent était léger, marqué seulement sur les consonnes dures. L'ensemble ressemblait à un bourdonnement plutôt chantant. Il se leva. Il appuya l'avant-bras sur le linteau de la haute cheminée et son front sur le dos de sa main. Il était si grand qu'il devait se courber un peu. Moi, je ne me cognerais pas même le sommet de la tête. Il demeura sans bouger, assez longtemps, sans bouger et sans parler. Ma nièce tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jeta pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, je fumais, à demi allongé dans mon grand fauteuil douillet. Je pensais que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée, que l'homme allait nous saluer et partir. Mais le bourdonnement sourd et chantant s'éleva de nouveau. On ne peut dire qu'il rompit le silence, ce fut plutôt comme s'il en était né. J'aimais toujours la France, dit l'officier sans bouger. « Toujours. J'étais un enfant de l'autre guerre et ce que je pensais alors ne compte pas, mais depuis, je l'aimais toujours. Seulement, c'était de loin. Comme la princesse lointaine. » Il fit une pause avant de dire gravement « À cause de mon père. » Il se retourna et, les mains dans les poches de sa veste, s'appuya le long du jambage. Sa tête cognait un peu sur la console. De temps en temps, il s'y frottait lentement l'occipital d'un mouvement naturel de serre. Un fauteuil était là, offert, tout prêt. Il ne s'y assit pas. Jusqu'au dernier jour, il ne s'assit jamais. Nous ne le lui offrîmes pas, et il ne fit rien, jamais, qui put passer pour de la familiarité. Il répéta « À cause de mon père ». Il était grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Il croyait dans la République de Weimar et dans Briand. Il était très enthousiaste. Il disait « Il va nous unir comme mari et femme ». Il pensait que le soleil allait enfin se lever sur l'Europe. En parlant, il regardait ma nièce. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue. Une statue animée, mais une statue. Mais Briand fut vaincu. Mon père vit que la France était encore menée par vos grands bourgeois cruels. Les gens comme vos de Wendel, vos Henri Bordeaux et votre vieux maréchal, il me dit « Tu ne devras jamais aller en France avant d'y pouvoir entrer botté et casqué. » Je dus le promettre car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe sauf la France. Il sourit et dit comme si cela avait été une explication. Je suis musicien. Une bûche s'effondra, des braises roulèrent hors du foyer. L'Allemand se pencha, ramassa les braises avec des pincettes. Il poursuivit. Je ne suis pas exécutant, je compose de la musique. Cela est toute ma vie. Et ainsi, c'est une drôle de figure pour moi que de me voir en homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre, non. Je crois que de ceci, il sortira de grandes choses. Il se redressa, sortit ses mains des poches et les tint à demi levées. Pardonnez-moi. Peut-être j'ai pu vous blesser, mais ce que je disais, je le pense avec un très bon cœur. Je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Il fit deux pas et inclina le buste. Comme chaque soir, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit. » Puis il sortit. Je terminai silencieusement ma pipe. Je toussai un peu et je dis « C'est peut-être inhumain de lui refuser l'obole d'un seul mot. » Ma nièce leva son visage. Elle haussait très haut les sourcils sur des yeux brillants et indignés. Je me sentis presque un peu rougir. Depuis ce jour, ce fut le nouveau mode de ses visites. Nous ne le vîmes plus que rarement en tenue. Il se changeait d'abord et frappait ensuite à notre porte. Était-ce pour nous épargner la vue de l'uniforme ennemi ou pour nous le faire oublier, pour nous habituer à sa personne? Les deux, sans doute. Il frappait et entrait sans attendre une réponse qu'il savait que nous ne donnerions pas. Il le faisait avec le plus candide naturel et venait se chauffer au feu qui était le prétexte constant de sa venue. Un prétexte dont ni lui ni nous n'étions dupes, dont il ne cherchait même pas à cacher le caractère commodément conventionnel. Il ne venait pas absolument chaque soir. Mais je ne me souviens pas d'un seul où il nous quitta sans avoir parlé. Il se penchait sur le feu et, tandis qu'il offrait à la chaleur de la flamme quelques parties de lui-même, sa voix bourdonnante s'élevait doucement. Et ce fut au long de ces soirées, sur les sujets qui habitaient son cœur, son pays, la musique, la France, un interminable monologue. Car pas une fois, il ne tenta d'obtenir de nous une réponse, un acquiescement ou même un regard. Il ne parlait pas longtemps. Jamais beaucoup plus longtemps que le premier soir. Il prononçait quelques phrases, parfois brisées de silence, parfois s'enchaînant avec la continuité monotone d'une prière. Quelquefois immobile contre la cheminée comme une cariatide, quelquefois s'approchant sans s'interrompre d'un objet, d'un dessin au mur. Puis il se taisait, il s'inclinait et nous souhaitait une bonne nuit. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce début de cette œuvre de Vercors, Le silence de la mer, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.